1, 2, 3, 4, 5, 6.
Bonjour à toutes et à tous, c'est Yann avec vous pour l'émission Le Grand Tout, nouveauté musicale, info culture, info concert sur Canal B du lundi au vendredi, 17h-18h aujourd'hui. Pas d'info concert, pas beaucoup de nouveautés musicales puisque on parlera en un instant avec un des auteurs de ces nouvelles recueils Reine Noire qui paraît le 7 mai prochain chez Asphalt Édition. Un écrivain qu'on connaît bien ici à Canal B, c'est Antoine Filias que vous retrouvez tous les dimanches dans Tri Sélectif, Antoine Filias et son texte Georges Clenet. Ça se passe Route de l'Orient. Il nous en lit un extrait dans quelques secondes. Et puis en deuxième partie d'émission tout à l'heure, une longue page culture, on retrouvera Yves Bigot, éditeur chez les éditions de Juillet, qui nous baladera dans l'exposition L'aventure éditoriale des éditions de Juillet, à retrouver du 29 avril, ce mercredi, jusqu'au 19 juin à l'instantané, la galerie d'exposition du 360. Le tout augmenté de quelques sélections musicales qu'on devra à Yves Bigot tout à l'heure et à Antoine Filias qu'on retrouve dans quelques secondes. Bonne émission.
Tu le sais peut-être pas, mais ce parking est à moi. Pas juste cette place, le parking tout entier. Mon royaume de la benne à ordures au beat Vigipirate, ce boulot et ses moineaux, ce lampadaire et ses mégots. On a du mal à le croire, avec mon baluchon et mon Huawei fissuré, j'ai pas l'allure d'un milliardaire, pas une carrure à porter groupe et holding. Tu m'imagines débarquer avec mon Levi's moisi chez Gucci ou Balenciaga, inspecter les caves du château Latour, rouler au bec, 8-6 à la main? Non, toutes ces conneries, je les laisse aux voisins. François Henri, fils de François. À 10 ans près, on est tous deux nés à Rennes. Amateur d'art contemporain, allergique aux impôts, victime de calvitie, et à quelques accidents de parcours près, on aurait pu avoir la même carrière. Aujourd'hui, lui à son stade, moi mon parking, et les hermines sont bien gardées. Tu me crois toujours pas? Je t'en veux pas. T'as quoi, 20 ans, 21, putain? Au moins, contrairement à moi, t'as la tête de l'emploi. Étudiant. Au drapeau palestinien brodé sur ton sac, je dirais que t'es en lettres. Art du spectacle? Avec les blocages à Rennes 2, tu dois passer plus de temps à boire des demi-places Sainte-Anne qu'à t'emmerder en amphi. Et dis-moi si je me trompe, mais à part quand tu attends des passagers pour les amener à Lorient, tu dois pas souvent foutre les pieds dans le quartier, si? On a plus de chances de te croiser au TNB qu'au Roison Park, pas vrai? Ne t'offusque pas de mes généralités, j'ai aussi fait sociaux. J'ai erré pendant des années dans les mêmes bâtiments amiantés, Bourdieu comme boussole. Sauf que moi, le week-end, plutôt que d'aller filer mon linge à papa-maman, j'avais qu'une seule destination, la route de Lorient.
Antoine Filias, un extrait de Georges Clenet. Bonjour Antoine.
Salut Yann.
Une des nouvelles qu'on retrouve dans Reine Noire, ce recueil qui paraît le 7 mai chez Asphalt Édition. On est dans le quartier Route de l'Orient Clenet, en fait. Ouais. On est près du stade, vous l'avez entendu. Et on est dans la nouvelle la plus courte de ce recueil. Vraiment, c'est rapide, efficace. En moins de 10 pages, on a le parcours de Georges Clenet. Bon jeu de mots, merci. n'est pas exactement, vous l'avez entendu, la copie conforme de François-Henri Pinault. On peut le nommer, tu donnes pas le nom, mais bon, c'est assez,
assez
transparent quand même. Ce qui est noir, c'est l'environnement dans lequel baigne Georges, mais peut-être qu'il ne vivrait pas comme ça lui si on lui demandait.
Non, bah c'est ce qu'il connaît. C'est noir parce qu'en gros, Georges raconte à quel point il a... ça a été une révélation déjà de découvrir le foot et le Stade Rennais au parc des sports, au Roison Park.
Roison Park, on dit maintenant.
Maintenant, on dit. Et en même temps de cette révélation de l'amour du sport, il a aussi découvert sa sexualité et il l'a découvert sur le parking de ce même stade qui est quand même un haut lieu de cruising, qui j'ai découvert était un haut lieu de cruising dans les années 70-80, cruising homosexuel, c'est-à-dire des hommes qui, de manière discrète, se rencontraient dans des voitures ou sur des parkings. Et jusqu'à très récemment, et encore très, très légèrement, même si avec les caméras de surveillance et les lampadaires allumés c'est beaucoup plus compliqué aujourd'hui, les hommes se rencontraient là-bas. Donc c'était faire le parallèle entre le foot qui est quand même un sport ultra viril encore aujourd'hui où par exemple faire son coming out est quasiment tabou et le parking à côté où des hommes s'adonnent à ça et aussi faire le parallèle entre Georges qui est lui plutôt un prolo du quartier et le fils Pinault qui lui a fini par acheter le stade et tout sauf un prolo.
J'entends cette courte nouvelle, mais très dense quand même, parce que c'est un monologue dans lequel Georges s'épanche vraiment sur toute sa vie. Hein. C'est l'histoire de sa vie, tout simplement. On passe d'histoire sur des classes sociales, on parle de football, d'histoire ouvrière, notamment un PSA pas très très loin. Et puis on parle de champion de Cissé. Et les gens qui y habitent, rue champion de Cissé, ne savent pas qui c'est, en fait. Hein.
Non, mais je l'ai mis dans le roman, mais j'ai déjà oublié, en fait.
C'était un ancien abbé local,
oui, c'est ça.
Devenu ministre des Finances de Louis XVI.
Peut-être. De Louis XVI, ouais. Ça m'amuse les noms de rue, et puis surtout quand il y a des gens de la noblesse qui sont dans des rues qui seraient plus du tiers état, quoi. Mais à contrario, à Rennes, il y a aussi des noms de communards, donc ça va, on est bien. Et ce que j'aime bien aussi dans cette nouvelle, c'était j'ai pensé pas mal à toutes les fois où j'ai fait des covoiturages où t'as des gens qui n'ont pas trop l'occasion de parler en dehors des covoiturages et là qui se retrouvent en société et qui quand on leur demande qu'est-ce que tu fais dans la vie, une demi-heure après, on n'a pas fini, quoi. Il y a toute une vie. Donc là, c'était le but parce que le parking de la route de l'Orient est aussi un air de covoiturage pour aller à l'Orient.
Ce que j'aime bien dans l'écriture d'Antoine Filias, et c'est le seul auteur vivant dont j'ai lu toute l'œuvre, et même mort d'ailleurs, non, toi tu es vivant, mais voilà,
pour l'instant.
J'ai lu tout ce que tu as écrit depuis le début, depuis Home, Sweet Home, ça c'était avec Alice Zeniter, et puis il y a eu par la suite Stéréo, où on parlait pas mal du coup Pavement, et puis ensuite il y a eu Plexiglas, on parlait pas mal de Cholet, et Wallaby, on parlait pas mal de cet animal qui était une sorte de métaphore des échanges commerciaux et du monde qui va très très mal, hein, vous le savez. Une écriture qui, à chaque fois, va s'intéresser à un sujet, mais pas forcément un sujet que tu connais d'emblée à l'avance. C'est pas l'autobiographie, même si parfois peut-être peut s'y glisser.
Bah oui, non, le but c'est toujours déjà de trouver un sujet qui les intéresse et puis qui me permet de faire des recherches et si on écrit en pensant tout savoir d'avance, on va vite s'ennuyer et puis c'est pas intéressant. Il faut toujours être par rapport à l'idée de départ qu'on a, être surpris et même parfois être malmené. Là, moi j'avoue que quand on m'a demandé de choisir une partie de Rennes, j'ai choisi ça parce que j'aimais le côté cruising et foot, mais moi je connais très peu. Je suis jamais allé voir un match au Stade Rennais, par exemple.
Et t'as jamais habité
dans ce quartier. J'y vais très rarement. J'ai dû prendre un cova tous deux. Enfin, moi je suis Rennais que depuis 10 ans, mais quand même. Et c'est ça qui m'intéressait. J'aurais pris le centre-ville, ça aurait été presque trop simple, quoi. Même si il y a des excellentes nouvelles qui se passent dans le centre-ville, dans le recueil, mais voilà. Donc c'était une manière aussi pour moi de découvrir et puis d'aller à la rencontre d'un personnage.
Alors un personnage qui est cru certainement, mais j'ai de la tendresse pour lui en tout cas.
Il représente aussi une génération de Rennais aussi, je pense, qui vit à la fois sur la nostalgie des années 80, notamment la rue de Saint-Malo à l'époque où c'était la rue de la soif. Enfin, j'imagine que tu dois en connaître, Yann, des gens comme ça, et qui en même temps est assez lucide sur la gentrification, sur sa place aujourd'hui dans la société, comment il est pas non plus passéiste et j'aimais bien, puis c'est un loser en plus, donc c'est ça aussi. Moi, quand on écrit une nouvelle noire, j'en lis peu, c'est vrai que je suis pas ni passionné ni expert du genre, et donc tout ce que j'ai essayé de mettre un peu de noir, c'est un peu son parcours et toutes les saloperies qu'ont pu lui arriver, quoi.
Alors ce personnage-là a eu aussi des histoires d'amour, oui, il en a une qui dure plus longtemps que les autres quand même. Là tu as cité une autre ville en Bretagne qui est Guingamp. Bon, là évidemment c'est un peu tentant quand on parle de football ou pas loin, de parler de Rennes et Guingamp, quoi.
Oui, bah oui, surtout qu'en plus j'ai jamais habité Route de l'Orient, mais j'ai habité au Vieux Saint-Etienne et on a un bar de supporters là-bas de Guingamp depuis longtemps, donc j'en ai entendu souvent parler. Et oui, c'est marrant de faire des rapprochements. Déjà évidemment, quand on parle de Route de l'Orient, j'avais envie de faire des jeux de mots avec l'Orient. Et puis le fait que oui, la Bretagne, elle existe peut-être au niveau office de tourisme, mais dans la réalité, elle existe aussi par ses clubs de foot, elle existe aussi par les petites différences à la con qu'on se fait, alors que voilà. Et en même temps, moi à Rennes, je connais très peu de Rennais, quoi. Enfin, on est comme à Paris, il y a peu de Parisiens. Moi, je suis pas de Rennes, mais et j'aimais bien que le personnage lui aussi soit un mélange de tout ça, qui bouge pas mal. Et d'ailleurs, il finit par quitter Rennes et partir à l'Orient.
Alors, ce qui est amusant dans cette nouvelle-là et dans ta personne, hein, d'écrivain, mais aussi qui travaille dans un bar, c'est que tu aurais pu forcément utiliser cette position-là pour faire un héros qui observe tout, qui décèle quelques petites dysfonctionnements et puis enquête dessus. Non, ça aurait été trop facile, ça.
Ah ouais, c'est trop facile. C'est toujours tentant, hein, quand on bosse dans un bar, et notamment dans une ville comme Rennes, où il y a toujours des récits, des histoires, de, de faire des narrateurs barman ou alors habitués de comptoir, mais je, bon, déjà c'est fait beaucoup, et puis je me le permets pas, je trouve que c'est un peu trop facile. Par contre, évidemment, le personnage de Georges, il m'est inspiré de plein de, enfin, et c'est mes aventures sont inspirées de plein de gens à qui j'ai parlé, notamment des habitués de bar où j'ai travaillé. Ouais.
On va écouter un peu de musique, parce que j'ai demandé à chacun des auteurs autrices de venir avec leur sélection musicale. Alors, pour une part, elle se trouve dans le recueil, puisque ça paraît à toute fin du livre chez Asphalt, il y a cette liste de morceaux. On aurait pu écouter Galette Saucisse Je T'aime, mais bon, voilà, vous la connaissez.
En tout cas, ces paroles sont à jamais immortalisées dans un
roman. C'est ça, elles sont écrites dedans. Alors, tu nous proposes un groupe que tu connais bien pour quelqu'un qui habite à Rennes ou qui y arrive depuis 10 ans seulement. Tu avais interviewé d'ailleurs dans une de tes émissions Tri-Sélectifs un des membres du groupe Santa Cruz.
Oui, je pense que Pierre Vital était un peu l'invité le plus récurrent dans mon émission. On avait notamment fait une rétrospective de Santa Cruz, qui est un groupe qui a duré une quinzaine d'années, qui s'est pour l'instant terminé, et Pierre a monté un autre groupe qui est très bien aussi, mais Santa Cruz, c'est vrai que j'aime beaucoup, ça réunit, c'est la version la plus classe d'Americana que j'ai entendue à Rennes et sur le territoire français en général. C'est pas évident de sonner, de faire de l'Americana quand on est français, et ils font ça très bien, et ce morceau qui est un peu nostalgique et qui parle de retour au point de départ, ça collait bien, je trouvais, à la nouvelle.
On My Way Back par Santa Cruz. Je le disais, tu es animateur sur Canal B, mais je n'ai aucune pression de ta part. La preuve, 8 des 10 auteurs autrices du recueil sont invités dans l'émission.
Bien sûr.
My Way Back, le groupe rennais Santa Cruz, dont on espère que peut-être ils reviendront aux affaires un jour. Ils étaient choisis, ce groupe en tout cas, et ce titre-là, choisi par Antoine Filias, notre invité aujourd'hui. On continue en deuxième semaine d'évoquer le recueil Rennes Noire, des nouvelles noires chez Asphalt, où on va de quartier en quartier, des quartiers choisis par les auteurs autrices. Tu le disais tout à l'heure, Antoine, proprement, c'est presque le hasard qui a fait que tu choisissais ça. Bon, il y avait quand même cette idée qu'il y avait du cruising dans les années 70-80.
Ouais, ça m'intéressait. Non, vraiment, tout de suite, j'ai eu l'envie de parler de ça, de ce parking, quoi. J'aime bien, ça collait aussi avec mes thèmes habituels, et voilà. J'ai eu plein d'autres idées, on pouvait faire plein de choses, hein. Les cimetières, les prairies Saint-Martin, j'ai pensé pas mal à un moment à ça. Et au moment où les prairies Saint-Martin ont été remodelées et vidées de leurs habitants, ça m'intéresse aussi, mais bon, voilà, il fallait choisir.
Il y a une constante dans ton écriture et ça rejoint aussi finalement les écrits noirs, même si bon, je dirais pas que c'est un texte noir ce que tu fais. Bon, mais en tout cas, il y a les préoccupations sociales et elles sont au premier chef, hein, dans les bouquins de Chandler, de Thompson, d'Achiel Hammett. C'est vraiment présent, les conflits sociaux qui peuvent exister, les différences de classe, les différences de rapport entre les classes et puis comment certains se font bien avoir à chaque fois, finalement. J'ai l'impression que c'est comme ça qu'on va trouver une sorte de fil conducteur dans ce que tu écris, la dimension sociale.
Ouais, je suis toujours guidé, le marxisme et le matérialisme guident toujours ce que j'écris, et même si j'essaie d'en m'éloigner, ça revient quand même. Notamment là, dans le choix du thème, c'est pas un hasard aussi que je m'intéresse à la route de l'Orient, où sont à la fois nés des personnages que représente mon personnage Georges, et Pinot père, qui est né dans une petite maison en face du stade, qui aime le raconter, qui est venu de nulle part, et beaucoup plus en tout cas que son fils, c'est sûr. Et comment, voilà, deux parcours de vie sont différents, un dans la bourgeoisie, un prolétaire, et voilà, il y en a un qui va bosser dans une usine et l'autre qui en tire des profits. Donc ça m'intéressait de le faire avec en 8-9 pages. C'est un bon exercice en plus, parce que ça permet à la fois de faire des raccourcis sans faire trop de raccourcis, en étant efficace dans la démonstration. Mais c'est aussi, au-delà de ça, c'est aussi ce qui me permet moi aussi de raconter des parcours touchants de personnages. Moi ça me touche et ça me parle, donc voilà.
Alors, tu le disais tout à l'heure, tu n'as pas forcément l'habitude de lire de la littérature noire. Tu saurais l'expliquer, ça ?
Bah non, pas trop. Je sais pas. J'ai jamais non plus vraiment ni regardé ni été vraiment excité par les séries policières ou les films policiers ou noirs. Je sais pas. Peut-être que ça pourra arriver un jour, en fait, mais on m'a déjà conseillé des choses, mais j'ai encore tellement de choses à lire sur d'autres sujets. J'aime aussi quand j'aime les romans contemporains. J'aime pas les romans de genre, quoi. C'est terrible à dire, et je m'excuse auprès de mes camarades, notamment Xavier, qui est un grand auteur de science-fiction
et un spécialiste du genre.
Mais c'est vrai que non, c'est pas sur ça que je me concentre. Aussi, j'essaie de lire ce que j'écris. Donc voilà. Mais si un jour je me mets à lire de la science-fiction, peut-être que je ferai un roman de science-fiction. On en reparlera avec Xavier.
Il y a cette nouvelle-ci qui fera patienter ceux qui ont lu avec beaucoup d'intérêt Wallaby l'année dernière. Ce petit animal qu'il ne faut pas confondre avec un kangourou et qui a été un petit peu baladé de continent en continent et qui, dans ton roman, servait un petit peu de prétexte, j'ai l'impression. Alors c'est peut-être pas beau comme terme, mais à travers l'observation et l'étude du wallaby et comment ils ont disparu, certains de zoos auxquels ils avaient été accrochés dans les années 1990 peut-être, comment tu en fais une histoire du capitalisme finalement?
Ouais, c'est ça, c'est l'histoire de la traite des prolos par le capitaliste depuis 150 ans, mais du point de vue d'un wallaby, et avec une parabole aussi sur l'existence des migrants et la manière dont ils sont traités géographiquement, vraiment précisément, puisque ces wallabies-là, et comme d'autres animaux, mais j'ai pris celui-là parce que j'avais lu un fait divers sur le fait qu'ils se retrouvaient en forêt de Rambouillet, ce qui n'est pas leur habitat naturel, et j'essayais de voir comment ils se retrouvaient là et dans quelles conditions. Et oui, ça raconte beaucoup de choses sur l'exploitation du genre animal, nous inclus.
Là, il y a des nouvelles choses qui vont arriver après cette nouvelle-ci.
Ouais, alors en fin août, je crois le 21, si je ne dis pas de bêtises, sortira Bungalow, mon nouveau roman, toujours aux éditions Asphalt. Bungalow qui n'est pas vraiment une suite, mais en tout cas ce qui est un peu dans le même univers que Plexiglas, puisqu'on retrouve le personnage principal de Plexiglas, Elliot, qui cette fois se retrouve à l'été 2024, l'été des JO, comme la grande histoire s'en souviendra, mais aussi l'année où Macron a volé des élections législatives, l'été. Et ces deux choses-là vont être le décor de son été, où il va être saisonnier dans une station balnéaire en Vendée, à Bretignolles-sur-Mer. Et donc on va suivre deux mois en Vendée avec Elliot. Bungalow, ça s'appelle, ça sort fin août.
Tu penses, c'est peut-être un peu trop tôt pour le dire, que ce sera un petit peu ton roule-tabille, ton personnage fétiche qui reviendra plusieurs fois?
Ouais, j'ai envie de ça. J'ai envie de tous les 2-3 romans, parce que j'ai d'autres choses aussi que j'ai envie de faire, mais tous les 2-3 romans, j'aimerais retrouver Elliot en tant qu'espèce de double littéraire, sans non plus trop, parce qu'il y a plus de décalage biographique, mais j'aime bien le retrouver, puis le foutre dans des situations qui m'intéressent, puis peut-être un jour, si je vis jusqu'à 100 ans et que j'en fais 30 des épisodes d'Eliot, on aura un peu l'histoire du 21e siècle en France à travers ses yeux, mais on verra ça quand je serai dans la Pléiade dans 150 ans. Pour l'instant, on n'en est pas là. Pour l'instant, j'ai essayé de faire 9 pages d'une nouvelle et j'espère qu'elle vous plaira, et surtout qu'elle est coincée entre deux autres nouvelles qui sont très 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 bonnes de camarades, notamment Nathalie Burel et Frédéric Paulin.
Vous lirez, j'espère, ce Georges Clunet qui se balade du côté de la route de l'Orient, qui attend un covoit pour aller loin. Pas si loin que ça, il reste en Bretagne. La nouvelle d'Antoine Filias dans Rennes Noire. Alors, on termine avec un autre morceau dans un instant. Avant ça quand même, c'est ta première nouvelle. Est-ce que l'exercice t'a donné envie d'en écrire d'autres ou pas sûr?
Je vais pas moi-même vouloir en écrire d'autres. Par contre, j'aime l'exercice, j'aime la contrainte en fait. J'aime un, la contrainte, et deux, faire partie d'un collectif. J'ai pris beaucoup de plaisir à voir ce qu'ont fait les autres, parce qu'on le sait qu'après qu'on a écrit. Et ça, j'aime bien. J'aime bosser sous la contrainte avec, on me dit... ça se passe, tu pourrais me dire, imagine Canal B me dit écrit une nouvelle sur je sais pas le studio nuit qui est à côté de nous là, qui est tout petit, il raconte une nouvelle qui se passe là, mais il doit se passer au mois de novembre et il doit tenir sur 3 pages. Enfin, c'est un confort d'écriture d'avoir ça, parce que quand on est tout seul on n'est que le boss de nous, et là c'était assez plaisant de faire ça, et honnêtement je le referai avec plaisir.
La contrainte qui est aussi un peu le moteur de l'émission Tri-Sélectif que tu animes depuis quelques années sur Canal B, et on va terminer sur cette petite référence à cette émission qui va encore durer quelques mois. Une des contraintes que tu m'avais imposée, ou proposée en tout cas, c'était de nous balader dans une sélection de musique rennaise. Eh bien, tu allais chercher aussi dans cette ancienne sélection que j'avais pu faire pour ton émission.
Oui, je voulais choisir pour Rennes Noire des groupes rennais, et c'est vrai que j'en ai écoute pas tant que ça, en tout cas aujourd'hui, et je me souviens que tu m'avais fait découvrir, puisque je t'avais demandé de me faire écouter des groupes peu connus, ou un peu trop oubliés de la scène rennaise, tu m'avais fait découvrir A Cake Room, et j'avais pris beaucoup de plaisir, et c'est un peu aussi, si on aime Santa Cruz, on va aimer A Cake Room, je pense, et voilà, c'est pour ça que je l'ai ressorti pour l'occasion.
Eh bien, on l'écoute alors, ce Lafayette Gumbo, où on voit encore un groupe très américanophile, hein, évidemment. Merci Antoine, et puis à bientôt sur les ondes de Canal B, derrière le comptoir d'un bistrot rennais, ou bien bientôt chez Asphalt pour le nouveau roman. Et pour l'instant, il y a le recueil. Merci, salut.
Merci.
Fly in the kitchen, kid. There's a bad word, cancer. It's a warning, but I can't believe it. I was in just your bathroom. I was in stuck in your bathroom. You dirty me. We'll see. Let's buy some cookies. Sing it and smell my hot kiss. We'll see. Let's buy some cookies.
aujourd'hui dans la page culture de l'émission Le Grand Tout, qui double, hein, vous l'avez entendu, on se baladera dans une exposition qui se déroule à partir de ce mercredi 29 avril, c'est le vernissage, jusqu'au 19 juin, c'est l'aventure éditoriale des éditions de juillet, c'est à la galerie L'Instantané au 360 et qui de mieux pour en parler que Yves Bigot des éditions de juillet. Bonjour Yves.
Bonjour Yann, bonjour tout le monde.
Puisque c'est l'aventure éditoriale des éditions de juillet que vous allez pouvoir découvrir. 22 ans au service de la photographie, au service des photographes.
Et des livres.
Et des livres, quand même une très grande quantité de livres publiés. On va en parler un petit peu de tout ça, de cette installation, de cette histoire, et puis de l'équipe derrière les éditions de juillet. C'est pas pour célébrer un anniversaire cette exposition, mais tout de même c'est une désormais vénérable maison. 22 ans quand même.
Bah oui, 22 ans. Mais c'est pas vraiment anniversaire parce que notre anniversaire des 22 ans, c'est en juillet prochain. Ce qui est une
forcément
première clé de lecture de la maison de notre maison.
On peut penser qu'elle est née forcément l'été. Alors, on imaginera.
Un petit peu, oui.
Elle est née du désir de combien de personnes? Qui sont les gens derrière la naissance des éditions de juillet?
Alors, au départ, c'est Richard Volante et moi-même. Richard, il est photographe, il travaille beaucoup pour Rennes Métropole à l'époque, c'est son gros client. Et puis moi, je suis graphiste de commande, on travaille ensemble. Et à un moment, bon, la com, c'est bien gentil, mais souvent, c'est quand même assez, c'est peu pérenne, on va dire. Et donc, on s'est retrouvés autour d'un projet de créer des objets qui soient justement beaucoup plus éditoriaux et qui donnent du sens à nos métiers, en fait.
Toi, tu avais déjà un studio graphique à l'époque ?
Oui.
Et tu faisais déjà de la photographie et tu continues à en faire un petit peu ?
Alors, je faisais pas de photos à l'époque. Je regardais beaucoup de photos. J'étais toujours passionné de photos. Je me suis mis à faire de la photo en 2007. Au départ, c'était pour me dire, bah, tiens, quelles sont les problématiques des photographes ? Et peut-être que si je fais de la photo, je vais comprendre un petit peu leurs interrogations quand ils vont venir me voir. Puis ça m'a beaucoup plu, en fait. Donc, j'en ai fait pas mal. Voilà.
Et aujourd'hui, cette structure n'est pas devenue tentaculaire. C'est resté une petite structure, les éditions de juillet.
Oui. C'est, on est toujours tous les deux. Hein, et puis, il y a Nelly qui s'occupe de l'administration. Et surtout de la relecture des ouvrages, c'est quelqu'un, une relectrice assez exceptionnelle, je dois dire. Et puis Pascal, qui est photograveur de métier et qui donc est associé également aux éditions et donc qui fait le traitement des images qui vont être reproduites. Et ça, c'est encore un truc, c'est un métier à part entière. Hein.
Comment elle est née, cette expo ? Est-ce que c'est Bug qui gère cette salle d'exposition qui vous a contacté pour vous proposer cette expo ?
Eh ben ouais, ça a été une grande surprise, hein, parce que bon,
vous vous connaissez très bien quand même depuis longtemps.
On se connaît très bien depuis longtemps, mais quand Richard et Camille nous ont appelés pour nous proposer ça, c'est vrai qu'on n'a jamais fait, on n'a jamais été éditeur pour avoir droit à ça, à notre heure de gloire, comme ça, enfin une gloire tout à fait mesurée, hein, mais modérée, je dirais. Mais voilà, ils nous ont appelés, et puis Camille est venue au bureau, on a regardé, et en fait on a décidé de déménager, en fait, de recréer l'esprit du bureau dans l'espace d'expo. Donc c'est une expo un peu particulière, dans le sens où c'est pas une exposition de livres, vraiment. C'est une exposition qui parle aussi de notre métier et de la fabrique du livre, en fait.
J'ai envie que tu nous décrives à quoi ça ressemble avec un présentoir à images dès le début. Alors des images, c'est des flyers, en fait. C'est des choses tout à fait banales, mais c'est des flyers qui datent de longtemps.
Alors en fait, j'ai toujours fait ça. Et j'ai un présentoir à la carte postale dans mon bureau. Donc là, en ce moment, il est là-haut. Hein, il est dans l'espace d'expo. Quand on m'envoie quelque chose, une invitation, un badge pour un festival de photos, hein, évidemment, et puis des tas de petites choses comme ça, je les accumule dans ce présentoir à carte postale.
Alors c'est quoi ? C'est pour aussi avoir toujours l'œil accroché par des choses qui te sont chères ?
Ouais, parce que c'est vrai que c'est un peu un parcours en creux, en fait, ce présentoir. C'est-à-dire, quand on regarde un petit peu, il y a des, par exemple, des petits bons de souscription qu'on a sortis en 2012. ou alors des voilà, ça peut être aussi un badge de notre présence à Arles une année, enfin voilà, c'est plein de petites choses comme ça.
Alors c'est l'entrée, l'antichambre presque de cette exposition qui nous permet de voir ce présentoir-là et puis de ce qu'il contient. Un petit mur de présentation et puis derrière, on arrive directement presque dans les bureaux des éditions du GIEC qui ont été, alors c'est pas déménagé parce que ce sont pas vos
vrais mobiliers. Faut qu'on puisse continuer pendant l'expo quand même, donc c'est pas exactement notre bureau. Mais en fait, c'est parce que nous, comme on travaille beaucoup les images, alors il faut quand même que je reprécise pour ceux qui ne connaissent pas l'édition photographique, mais donc on essaye de créer une narration en images, un peu comme un storyboard de film. Et donc à partir de ce moment-là, nous, quand on a tout un corpus d'images qu'il faut qu'on trie, qu'on assemble, qu'on agence en fait dans selon un scénario qui est un récit qui est défini à l'avance par l'auteur quand même, en fait, on étale toutes les photos. Et après, on écarte, on fait des paires de photos, enfin, on joue aux cartes, en fait. Et puis, il y a un moment, il y a un déroulé qui se construit. Alors, déroulé, donc, c'est l'enchaînement des images les unes par rapport aux autres. Et on ne parle pas de maquette, on ne parle pas de taille d'image, c'est juste l'enchaînement. Et à partir de ce moment-là, eh bien, en fait, quand on fixe l'enchaînement, on numérote les images, on fait un petit art, et après, en fait, on recrée. Moi, ça me permet de partir en maquette derrière et puis voir quelles peuvent être les tailles. Mais il y a toujours un préalable qui est cette étape-là. Et donc là, moi, des tirages de lecture, on en a quand même accumulé quelques-uns. Et là, bon, il n'y a pas de déroulé précis sur cette table de travail, mais il y a une accumulation de petits tirages de lecture qui ont été accumulés au fil des années, quoi.
Un bureau sur lequel trône un ordinateur d'une ancienne époque, hein. Je ne pense pas qu'il fonctionne encore beaucoup, et non, un cadre photographique aussi.
Il y a un petit cadre photo avec une image d'Irlande que j'aime beaucoup, de Bernard Le Saint. Ouais. Et ça, c'est dans mon bureau. Ça, par contre, là, pour le coup, elle est dans mon bureau, cette image.
Ça aurait pu être beaucoup plus grand, cette exposition.
Oui, pourtant, l'espace est plus grand que notre bureau. Mais bon, il y a un moment, il faut se calmer un peu quand même. Puis il y a aussi des questions de sécurité, hein, liées au vol, évidemment. Par exemple, au bureau, j'ai une petite statuette d'un personnage qui est assis en tailleur en train de lire, comme ça, c'est un petit bronze qui vient du Mali, c'est l'auteur de Tout commence à Koudougou qui me l'a offerte, avec marqué dessus les éditions de juillet avec l'année. Bon bah ça, moi j'y tiens beaucoup parce que c'est un cadeau d'un auteur, je ne l'ai pas amené, c'est pas possible ça.
Mais en tout cas, on a l'impression qu'on est vraiment dans l'intimité des éditions de juillet, ça c'est vrai, avec au fond de ça un écran vidéo là, on peut montrer la photographie qui bouge. Non, c'est pas de la photographie qui bouge quand même.
Non, pas exactement, mais des fois si quand même, c'est-à-dire qu'il y a des... En fait, Richard a fait un long montage de films qu'on a accumulé depuis toutes ces années. Ça dure 1h20, mais c'est pas fait pour être regardé en entier. Hein. Il y a un canapé devant, donc si les gens veulent se poser, ils peuvent regarder un peu, puis zapper, enfin, voilà, et poursuivre leur visite. Et en fait, ce film, c'est un assemblage de tous les films qu'on a postés sur Insta, sur nos présences, par exemple à Paris Photo, ou quand on fait une manifestation, ou quand on va à Arles, on fait un film, etc. Donc tout ça s'est mis bout à bout avec d'innombrables images qu'on a prises parce que Richard est photographe et moi je fais des photos. Et donc avec ça, on a beaucoup, beaucoup d'images de nous, etc., qui sont parfois assez anciennes. Donc tout ça, on a mis bout à bout. Et alors la particularité, c'est que pour l'exposition, on a demandé à pas mal d'auteurs de nous faire une petite capsule vidéo de 30 secondes en carte blanche, ils font ce qu'ils veulent, et donc ça fait des petites respirations comme ça, où il y a soit les gens parlent face caméra, soit ils se mettent en scène, et tout ça, et c'est assez, parfois c'est vraiment très drôle même. Donc moi, il y en a certains qui sont vraiment bien lâchés, voilà.
Petite pause musicale. Là, on est à Bruxelles, dans le début des années 1980. Pourquoi ce choix de ce morceau de Tissimatic?
Ben parce que d'abord, je crois que Arnaud, c'est l'artiste que j'ai vu le plus en concert. Et j'ai vu Tissimatic à Rock and Solax il y a bien longtemps. J'étais jeune et beau à l'époque. C'était vraiment un hymne, ce morceau-là. Puis c'est tellement belge, hein, j'adore. Exhaust.
C'était Tessématique, choisi par Yves Bigot, notre invité aujourd'hui dans Le Grand Tout. On se balade dans cette première partie de la discussion dans une exposition que vous pourrez voir à la Galerie L'Instantané jusqu'au 19 juin, l'aventure éditoriale des éditions de Juillet. C'est pas juste des photographies sur des murs et des livres dans un coin, non, c'est une mise en scène, une scénographie vraiment réussie qui est proposée à L'Instantané. Vous avez entendu déjà une description de cette première partie de l'exposition par Yves Bigot. On va continuer eh bien, sur le mur qui là me paraît un peu plus conventionnel peut-être, avec pas mal de photos, mais c'est très 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 serré. Les murs étaient peut-être un peu trop petits pour mettre sur ce site tout ce que vous aviez envie d'exposer quand même.
Ça ressemble au mur dans notre bureau. Nous, on n'est pas très muséal dans notre manière d'accrocher. Là, il s'agissait de faire quelque chose de vivant. Donc, je précise quand même que tous les tirages qui sont dans l'expo sont des tirages encadrés avec les mêmes cadres que ce qu'il y a chez nous, en fait. Donc, c'est vraiment, ça correspond à nos murs dans notre bureau. Et puis, c'est aussi une accumulation d'images assez variées. Parce qu'au fil du temps, c'est pareil. Bon, ben voilà, un auteur nous offre un tirage. Des fois, on en achète un. Des fois, c'est un tirage qui reste d'une souscription, d'un tirage de tête. Il nous reste un exemplaire. Ben, je me dis, plutôt que de le mettre, faire dormir dans un tiroir, je le mets au mur. Donc voilà, c'est ça en fait.
Et puis sur le dernier mur peut-être et devant ce mur-là. Des vitrines quand même, parce que c'est pas muséographique sans doute, muséal cette exposition, mais il y a quand même, on joue le jeu un tout petit peu d'une exposition traditionnelle.
Bah oui, parce que là c'est une question de sécurité et aussi de vol en fait, parce qu'il y a certains ouvrages, notamment Rock, peut-être que tu voudras revenir dessus, mais d'autres, ceux qui sont sous vitrine, ce sont des livres très rares en fait, et qui sont très chers. Pour les collectionneurs, surtout les collectionneurs, il y en a certains. Moi, encore un livre notamment qui est sorti il y a 10 ans en fait, c'était Guy Le Carrec en Bretagne. Il y avait une exposition Champs Libres un an après, tout ça. Bon, eh bien, ce livre-là, il coûte plusieurs centaines d'euros sur Amazon si vous allez dessus. Donc on le met sous vitrine, on le laisse pas en libre service, quoi, évidemment. Surtout qu'il nous en reste deux. En fait, donc voilà.
Et au mur derrière cette vitrine, quelques photos, mais pas forcément des tirages. J'ai l'impression que c'est plutôt des tirages sur papier que vous avez fait là à ce moment-là, qui sont derrière ces vitrines-là, avec des papiers déchirés, des choses qui vont un peu dans tous les sens. Côté un peu plus brut.
Ça correspond à en fait à un vrai truc de l'édition de livres. C'est-à-dire que nous, comme on fait de la reproduction d'art, en fait, de la reproduction vraiment. Donc, Richard va au bout tiré chez l'imprimeur à chaque livre, et donc pour chaque livre il me ramène on imprime en République tchèque hein, en ce moment, on est imprimé au Portugal aussi, il me ramène toutes les feuilles d'impression et on les regarde ensemble une fois arrivé. Bon, en général il revient pas pour me dire c'est pas bien. Enfin, en général je suis content, et c'est pareil, on accumule tous ces rouleaux de papier là, et en fait on s'est dit qu'on allait faire un mur avec ça, quoi. Donc c'est plutôt l'accumulation des feuilles d'impression en fait.
Tu citais ce livre Rock, oui, on peut terminer ce tour de l'exposition à l'instantané avec ce grand poster qui montre la couverture de Rock 1, un livre sur le rock à Rennes des années, pour son premier tome, 1960 à 1990 il me semble, ouais. Et c'est un livre qui était attendu il me semble quand il est sorti. Une somme, quoi. Il y a 400 pages, peut-être, c'est un pavé quand même.
Oui, je ne sais plus combien de pages, mais il y en a beaucoup. Ouais.
Alors ça, c'est un livre un peu inédit chez les éditions Julien, ou vous avez aussi fait d'autres livres autour de... Parce qu'il n'est pas seulement la photographie.
Alors, on se laisse un peu aller dans nos rencontres et dans nos envies, en fait. C'est vrai que le socle, je dirais, c'est la photo. Mais on a fait des arts plastiques, hein, on a fait des, y a un entretien avec Robert Combas qu'on a publié, c'est un peintre. Hein, on a fait quelques ouvrages comme ça d'arts plastiques, de dessin, de peinture. Concernant la musique, Richard et moi, on aime beaucoup la musique. Donc quand on nous propose un projet musical, en général, on accepte. Pas si ça nous plaît, évidemment.
Bon. Pas de choses sur Sheila, je pense, par exemple.
Pas trop, mais alors sous un angle sociologique, ce serait intéressant. mais, mais, euh, mais, mais pas sur l'artiste. Je suis sûr qu'il y a plein de livres sur elle déjà.
Oui, ou alors sur la tectonique, ça pourrait vous intéresser d'en faire aussi.
Ouais, d'un point de vue sociologique, c'est intéressant, c'est sûr. Donc on a fait donc ce livre Rock, l'histoire du rock en Bretagne, qui a eu un succès. On en a tiré 3000, ça s'est vendu en 6 mois, c'est archi épuisé. Moi, il m'en reste 2. Et pareil, ça, j'ai pas regardé la cote récemment, mais bon, ça doit quand même coûter bonbon. Donc on a le nôtre, donc celui de la maison. Richard a le sien, moi j'ai le mien, et la messe édite. Donc là, le dernier exemplaire de la maison édition est dans le. Et sous vitrine également, malheureusement, hein, j'aurais aimé pouvoir le faire feuilleter, mais bon. Ça marque un tournant surtout dans notre histoire, parce que, en fait, c'est le premier très gros projet qu'on a eu. Ce livre-là, c'est 2 ans de travail, mais d'arrache-pied. C'est 80 auteurs, donc photographes et rédacteurs. Il y avait des belles plumes, hein, Christophe Comte, enfin bon, des gens comme ça, un peu capés, on va dire, qui ont écrit Préface de Miossec. C'était vraiment un beau truc, mais pour moi, c'était 80 contrats d'édition. Donc, un fonctionnement de maison d'édition un peu comme si on était... C'était, le costard était un peu grand pour nous. Donc, c'est vrai que ce livre-là, ça marque un tournant aussi dans notre manière de fonctionner aussi. On a appris vraiment sur notre métier à ce moment-là.
C'est-à-dire peut-être des ambitions grandes, mais des moyens peut-être un peu plus limités. Donc, vous n'avez pas voulu réinitier cette aventure avec 80 contrats.
Ben non, mais là, c'était dingue. Hein, quand même. Ouais. C'est pour ça, et d'ailleurs, honnêtement, c'est pour ça qu'on ne l'a jamais réimprimé, parce qu'on aurait pu le réimprimer 2-3 fois. Là. Mais la perspective d'administration de ce livre-là, non. Plus jamais ça.
Je me souviens avoir aussi parcouru des livres sur un label breton des années 1970, sur des photos du Sahara avec le journaliste Arnaud Contreras. Il y a eu d'autres aventures aussi comme ça.
Il y a eu aussi un livre sur la route du rock et puis un autre sur l'histoire d'art rock aussi.
On va sortir de l'exposition pour aller vers quelques parutions récentes de la maison d'édition. Si je peux citer par exemple certains ouvrages comme Remonter la rivière de Sébastien Hérôme, Au les cœurs de Stéphanie Lacombe, La nuit fauve de Bruno Vialanex. Ça, c'est des choses qui ne sont pas encore sorties, qui vont sortir bientôt.
Bruno Vialanex, il est sorti au mois de janvier dernier. Donc, il est déjà sorti, déjà dispo. Le livre de Stéphanie, Au les cœurs, il sort le 12 mai. Mais il est déjà dispo sur notre site web, donc vous pouvez le réserver encore au tarif souscription d'ailleurs. Donc voilà. Et Sébastien Hérôme va sortir fin mai.
Des livres de photographie qui montrent toujours ce lien, les deux côtés de la même pièce, si je puis dire, entre esthétique et puis aussi documenter le monde.
C'est exactement ça. C'est-à-dire que en fait, c'est vrai que ces deux livres, les deux derniers là. Au les cœurs et Remonter la rivière. Remonter la rivière, c'est un petit livre très intime sur la famille, la transmission, la paternité, la perte aussi. Enfin bon, il y a tout un truc qui est assez. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est un très beau livre. Vraiment, je suis très fier de le faire. C'est son premier livre, hein, Sébastien. Et puis Stéphanie Lacombe, c'est un propos qui est très documentaire, très social, qui montre des gens qui sont. Des personnes qui sont invisibilisées de manière générale. Bon, ça se passe dans les Hauts-de-France, c'est 15 ans de travail dans les Hauts-de-France, c'est un travail au long cours. Ça se passe d'abord dans un camping. Le premier chapitre, c'est dans un camping qui s'appelle À Miami. Ensuite, il y a sur un parking d'un Intermarché. Et donc, c'est vraiment où ils photographient les gens qui attendent dans leur bagnole, qui se garent, etc. Bon, qui rangent leur coffre et tout. C'est hyper beau. Et puis, le troisième chapitre, ça s'appelle Somme toute. C'est celui le plus social, un peu à la Ken Loach. Hein. Il y a un peu cette veine-là, quelque chose d'un peu dur, mais très tendre en même temps. Où là, ça se passe dans une petite commune du nord de la France qui s'appelle Flixecourt. Et là, c'est on est vraiment sur la vie quotidienne, l'entraide, la solidarité entre les gens, tout ça. Et c'est vraiment beau. Hein. C'est un très beau travail.
Direction éditionsdubillet.com pour avoir toutes les infos et le commander et peut-être venir le. C'est pas une boutique non plus cette exposition. Hein. On va pas venir le récupérer ici.
Ah non. Mais par contre, si vous allez sur le site, vous pouvez très bien le commander et dire que vous passez au bureau. Hein. Il y a des horaires de bureau. Vous passez prendre votre exemplaire au bureau. Il n'y a pas de problème.
Bon, vous faites ça. On écoute un autre morceau choisi par Yves Bigot, puis on va arriver dans un instant à la fin de cette discussion autour de cette exposition qui vous attend à l'instantané ici au 360. La suite, ça va être eh bien, un morceau plus récent que celui de Tissimatic tout à l'heure. On va à la fois dans la musique électronique et au Liban. De choses que tu apprécies particulièrement.
Bah oui, 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 c'est vrai.
On écoute donc Yuxek. À l'instant, titre choisi par Yves Bigot des éditions de juillet. On parle ensemble de bah oui, cette belle structure d'édition de photographie et puis de livres de photographie et puis aussi de l'exposition de l'aventure éditoriale des éditions de juillet qui vous attend à l'instantané, la galerie photo du 360. Il y a quelques livres qui vont être visibles aussi dans l'exposition. C'est des choses que avec lesquelles peut-être pourront partir certains des spectateurs de l'expo.
Ah ben, ceux qui veulent, oui. En fait, on a laissé pas mal de livres, en fait, mais on en a d'autres. Hein. Des livres qui ne se vendent plus, qui se trouvent plus en librairie, qu'on a en stock et qui sont, alors je dirais pas que ça encombre parce que c'est un peu péjoratif, mais autant qu'ils continuent à être diffusés en fait. Donc c'est un moyen, vous pouvez, si vous rentrez dans l'expo, ben, vous pouvez emporter un livre de votre choix. Il y a plusieurs titres, hein, évidemment.
On imagine que l'économie d'une structure comme les éditions de juillet, c'est un petit peu fragile, forcément. Est-ce que vous pouvez éditer des livres parce que les précédents sont bien vendus? Comment ça se passe en termes de trésorerie, de roulement, tout ça?
C'est vrai qu'on est sur une ligne de crête, hein, je dirais, mais qu'on suit quand même depuis longtemps. Et honnêtement, et là, on n'a jamais été à découvert. Donc c'est quand même c'est quand même pas mal. Hein. Donc ça veut dire que c'est une boutique à peu près bien gérée. En fait, l'économie du livre, elle est pas très loin de l'économie de l'audiovisuel, notamment documentaire. C'est-à-dire que Avant de savoir qu'il va être diffusé, le livre, il faut qu'on puisse sécuriser un budget de fabrication, de production. En fait, on fait de la production. On va s'adresser à des partenaires. On a évidemment la région de Bretagne et la ville de Rennes, Rennes Métropole, qui nous soutiennent depuis le début. Donc on a quelques subventions qui ne sont pas loin d'être l'essentiel de notre budget, hein, mais c'est, ça a sa place, on va dire. Tout a sa place, un espèce de millefeuille comme ça, de choses qui nous permettent de continuer depuis quand même quelques années.
S'il y avait un livre passé que vous pouviez rééditer et que vous ne faites pas en ce moment pour je ne sais quelle raison, ça serait lequel en fait ?
Ce serait forcément un livre dont on est très fiers. Et Richard et moi, et je crois que, alors je parle sous son contrôle même s'il n'est pas là, mais je suis sûr qu'il va m'écouter et puis il va me dire ce qu'il en pense évidemment, mais il y a une expérience qu'on a eue à la fin des années 2000 qui était vraiment fabuleuse, avec un photographe qui s'appelle François Lejep. On a fait une récolte, on a organisé une récolte de petits appareils photo compacts argentiques, et à l'époque Agelia arrêtait l'activité de labo argentique. Et en fait, ils avaient plein de pellicules périmées. Et donc, ces pellicules périmées, on les a toutes récupérées pour une somme dérisoire. On a monté un atelier photo avec des enfants dans un camp de réfugiés en Cisjordanie. C'est un livre qui s'appelle Askar Kids. Bon, je le ferai plus pareil. Enfin, la maquette est datée, etc. Bon, la typo, enfin, tout est un petit peu daté là-dedans. Mais les photos, qu'est-ce qu'elles sont bien. Mais alors, c'est vraiment un super bouquin.
Eh ben, si vous voulez pénétrer un peu dans le cerveau des têtes pensantes des décisions de juillet, eh bien vous le voyez avec cette exposition-ci qu'on évoquait avec Yves Bigot. Vous retrouvez toutes les infos autour de la maison sur éditionsdejuillet.com, sur l'exposition en direction l'instantané-exposition.fr. Je mettrai les liens, bien sûr, sur la page Le Grand Tout sur canalb.fr. Peut-être quelques derniers mots à nous donner pour inciter peut-être ceux qui font de la photographie à vous approcher ?
Non, je ne vais pas les inciter, en fait, parce qu'il y a plus de photographes que d'éditeurs, donc c'est compliqué. Il faut savoir une chose, c'est qu'on reçoit entre 4 et 5 propositions de bouquins par jour. On fait une dizaine de livres par an, on va garder que les jours ouvrables, et ben, ça fait quand même 300 jours, donc ça fait quand même 1500 propositions, allez, on va dire 1000. Donc 1000 propositions par an, c'est pas possible en fait.
Peut-être pas les inciter à contacter les éditions.
Non,
du
pas par mail.
Un conseil quand même, ce serait quoi ? Ce serait de regarder la vie comme ça ?
Ouais, ou regarder aussi. Alors, si on est photographe, regardez si vraiment. Parce que chaque éditeur a sa ligne éditoriale propre et a sa manière de fonctionner. Donc, vraiment bien regarder l'éditeur auquel on veut s'adresser, parce qu'il correspond à ce qu'on fait en fait. Et nous, sur la somme de propositions qu'on a, il y en a énormément qui. Même si on pouvait les faire, même des bonnes propositions, hein. Mais ça va pas chez nous en fait.
Voilà, c'est le conseil de Yves Bigot, éditeur avec les éditions de juillet. On termine en musique, on en a entendu un petit peu dans cette discussion. Là tu nous emmènes avec le groupe Fugazi, pourquoi ce choix ?
Parce que je suis convaincu d'une chose, c'est que les vrais punks ils sont américains.
C'est pas les Clash, c'est pas les Sex Pistols.
Non, les vrais punks, c'est les Américains. C'est MC5 et tout ça, quoi.
Merci beaucoup pour ces déclarations importantes, notamment sur cette réévaluation de ce qu'est le punk dans la musique populaire. Waiting Room, c'est Fugazi. Merci, Ivigo.
Merci à toi, merci à vous.
Ainsi s'achève l'émission Le Grand Tout sur Canal B. On se retrouvera jeudi pour une nouvelle émission avec le retour de Léa et de sa chronique bande dessinée Ondes Graphiques. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.